Pétrole, anatomie d'une malédiction.
Alors que la guerre fait rage en Iran, le monde assiste une fois de plus à la puissance du pétrole. Le blocage du détroit d'Ormuz fait vaciller les marchés, ravive le spectre d'une crise énergétique globale et étale nos dépendances. L'or noir n'est pas qu'une matière première, c'est un levier de domination, un moteur de guerre et un lourd fardeau pour la planète.
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec Mathieu Ozano, l'auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole.
Épisode 3, 1960, l'OPEP ou le pétrole comme contre-pouvoir.
L'organisation aura pour objectif principal l'unification des politiques des pays membres et la recherche des méthodes les plus appropriées pour sauvegarder les intérêts de ces pays membres, tant individuellement que collectivement. Extrait de l'accord créant l'Organisation des pays exportateurs de pétrole à Bagdad le 14 septembre 1960. Mathieu Ozano, on est là sur une date très importante dans l'histoire du pétrole que nous racontons. Pétrole dans sa dimension physique, et vous insistez beaucoup là-dessus, dans sa dimension géopolitique bien sûr, et les deux étant bien évidemment liés. 1960, la création de l'OPEP. On avait évoqué dans l'épisode précédent, 1928, un premier cartel, des grandes compagnies pétrolières. Là, c'est un autre type de cartel, des pays producteurs désormais de pétrole. Comment est-ce que l'Occident a pu permettre une telle chose?
Il ne l'a pas permis, ça s'est fait malgré lui. L'OPEP a été créé pour faire pièce, pour contrer le cartel des sept sœurs. À ce moment-là, dans les années 60, l'existence est très fortement soupçonnée d'un cartel entre les grandes compagnies anglo-saxonnes. Les Français, à ce moment-là, ayant un strapontin, c'est la huitième sœur...
La CFP,
ce qui va devenir Total, et un peu
la
huitième Benjamin, qui est un peu tolérée dans cette histoire, qui a découpé ses intérêts en Irak.
Donc c'est encore secret, mais secret de Polichinelle.
Secret de Polichinelle. Mmh. C'est-à-dire que les chefs d'État ou les ministres du pétrole des pays autour du Golfe Persique ou du Venezuela, dès qu'ils négocient avec une compagnie pétrolière, ils se rendent compte, ouais, en essayant de jouer l'une contre l'autre, en essayant de jouer par exemple Exxon contre la Shell, bizarrement ça marche jamais. C'est un personnage essentiel qui a popularisé cette expression de sept sœurs, les sept sorelle, c'est un Italien, Enrico Mattei. Alors Enrico Mattei, il est assassiné, il meurt dans des circonstances très suspectes dont on pense aujourd'hui que c'est un assassinat commandité par les sept sœurs. Il a été le créateur de l'ENI. L'ENI, c'est la grande compagnie pétrolière italienne. Mmh. Et ce qu'il va faire, Enrico Mattei, dès les années 50, c'est tenter de faire des coins, de trouver des petits espaces pour s'infiltrer à l'intérieur du cartel en allant négocier avec le Shah d'Iran, avec le FLN en Algérie, avec l'Union soviétique, pour tâcher que l'Italie, qui est en plein boom économique, puisse contrôler, puisse sortir du dominium de la vassalisation américaine et anglo-saxonne. Je pense qu'il en est mort. Aujourd'hui, c'est assez clair. C'est assez clair pour pas mal d'intellectuels italiens, notamment Pasolini, dont la dernière œuvre, Petrolio, qui est un roman à clé qui parle de ça, quelque part. C'est assez fondamental.
Je crois que ça a été monté au théâtre aussi, je crois.
Oui, par Sylvain Creusevaux. Ouais. Une pièce absolument remarquable.
Ouais. Et donc, revenons.
Mattei trouve cette expression. Il dit, oui, mais en fait, on a affaire à sept sœurs. Et moi, là-dedans, je n'arrive pas à trouver le moyen d'échapper un peu à ce contrôle des sept sœurs. L'OPEP est créé pour faire pièce, justement, avec l'aide des gens avec qui Mattei voulait négocier, donc les Algériens, les Iraniens, les Saoudiens, les Vénézuéliens, pour tâcher de s'entendre et contrer, faire un contre-cartel, en quelque sorte. Et les deux personnages qui vont créer l'OPEP principaux, c'est un Vénézuélien et un Saoudien. Alors, le Saoudien, il est très intéressant, mais on va s'attarder sur le Vénézuélien.
D'accord, c'est vous qui décidez.
Oui, il y a beaucoup trop à dire. Vous me demandez de balayer tout un siècle d'histoire en quelques minutes, c'est
bien. Allez, le Vénézuélien.
Juan Pérez Alfonso, lui, il voyait vraiment la création de l'OPEP comme la première victoire du tiers-mondisme. Et il était écologiste, très sincèrement. C'est-à-dire qu'il voyait le pétrole comme un trésor incroyable qu'il fallait utiliser avec parcimonie, qui permettrait aux nations du Sud de s'émanciper, mais qu'il fallait en même temps utiliser avec parcimonie. Il avait une voiture, symboliquement, il avait une voiture qui était toujours en panne, et qu'il n'utilisait jamais, et qu'il regardait un peu comme le symbole de ce qu'il imaginait être, c'est-à-dire le pétrole comme source de progrès, mais devant permettre, un peu comme le charbon pour le Nord, devant permettre aux nations du Sud, tranquillement, décennie après décennie, de se développer. Quand il a vu l'effet délétère sur la société vénézuélienne de la corruption, le népotisme, etc., il a eu cette expression, il a dit « le pétrole, c'est l'excrément du diable ».
Ah, c'est lui. Ouais. On l'a pas mal entendu au moment de l'arrestation de Maduro.
Absolument.
C'est lui, d'accord. Voilà. C'est aussi cette fameuse pensée d'économiste, non, de l'école de la dépendance qu'on aura quelques années plus tard.
Ouais.
J'aimerais quand même qu'on revienne, parce qu'il ne faudrait pas prendre de manière monolithique les pays de l'OPEP. L'Arabie Saoudite a des relations très... très privilégié avec les États-Unis, par exemple.
Oui.
Et même, ils leur accordent, les Américains leur accordent le 50-50, c'est 50-50 sur les revenus.
Oui, mais alors ils trichent. C'est pour ça que l'OPEP est créé. En fait, notamment le cheikh rouge, parce que lui aussi, on lui prêtait des velléités comme ça, tiers-mondistes, d'où le rouge, fait partie des responsables du pétrole de ces pays qui s'apercevaient qu'on l'entourloupait, quoi. Mmh. Et c'est, l'OPEP a été créé pour, un peu comme revanche, face à ça. Mais c'est clair, hein, l'Arabie Saoudite, c'est une création en tant qu'État. L'Arabie Saoudite est une création de bout en bout américaine. Mmh. En tant qu'État moderne. C'est-à-dire, toutes les infrastructures pétrolières, naturellement, ont été construites et développées par les pétroliers américains. Mais toutes les infrastructures portuaires, y compris le nation building, la création des institutions modernes, c'est à chaque fois le corps des ingénieurs de la mer américaine ou des gens venus des grandes universités américaines qui vont apporter un peu clé en main le monde moderne dans une société fruste qui était quand même une société bédouine depuis des siècles.
Et on verra dans les épisodes suivants comment l'Arabie Saoudite a quand même toujours été au sein de l'OPEP un acteur plutôt conciliant avec les intérêts américains.
Oui, et puis le principal, parce que en fait, l'Arabie Saoudite, c'est les plus grandes réserves de pétrole conventionnel du monde. Et du reste, on n'a pas eu le temps de faire ce crochet-là, mais c'est un bout d'un empire qui aurait dû revenir aux Britanniques. Mais les Britanniques ont trouvé le pétrole en Iran. Ils l'ont fortement soupçonné en Irak, mais ils sont complètement passés à côté de la plus belle pièce sur l'échiquier qui était l'Arabie Saoudite. Et ce sont des géologues américains qui l'ont attrapé.
Ouais, dans l'entre-deux-guerres.
Oui, dans l'entre-deux-guerres.
Ouais, ouais. Revenons à l'OPEP. L'OPEP a son siège à Vienne. Pourquoi ? Pourquoi pas à Bagdad ? Pourquoi pas à Téhéran ? Parce qu'il fallait un terrain neutre.
Alors, c'est un peu un hasard. C'est un peu un hasard de c'est la guerre froide. Ouais. Ça devait être à Genève.
Oui.
Ça ne pouvait pas être ailleurs qu'en terrain neutre,
oui,
si j'ose dire.
L'Autriche était un pays neutre.
Oui, oui. Et puis le Venezuela a toujours fait partie des membres fondateurs, donc ça ne pouvait pas être dans un pays arabe. Mais les Suisses, dans leur grande prudence, ont craint de se mettre les Anglo-Saxons à dos. Et c'est Vienne, c'est le gouvernement autrichien qui a vu une petite opportunité. Mais ce qui est... L'OPEP n'a servi à rien, quasiment, jusqu'au choc...
Alors, justement, dans les années 60...
Il y a encore trop de pétrole. En fait, à ce moment-là, le pétrole reste beaucoup trop abondant pour que les producteurs puissent tenir la dragée haute aux consommateurs. Vous comprenez ? Comme il y a beaucoup de pétrole, finalement, c'est celui qui achète qui décide à qui il va acheter.
Ouais.
Tant qu'il y a surproduction, c'est un marché contrôlé par la demande.
L'or ne peut pas fermer le robinet ?
Eh bien, ils ont tenté de le faire en 67, donc pendant...
La guerre des Six Jours.
Pendant la guerre des Six Jours. Mais en fait, il y avait tellement de pétrole ailleurs, notamment aux États-Unis, qui était à l'époque, de loin, le premier producteur mondial, que c'était un coup d'épée dans l'eau. En fait, ils ne pouvaient pas contrôler. Et ce qui est très intéressant, et c'est là que revient ma lecture physique, c'est que l'OPEP devient une vraie puissance en 73, au moment de ce qu'on a appelé le choc pétrolier, le premier choc pétrolier, qui est vraiment, pour moi, la mi-temps de l'ère industrielle. Il y a vraiment un avant et un après 73. Après 73, c'est la naissance du chômage de masse, c'est la naissance de la dette. Mais en 73, donc là, c'est plus la guerre des Six Jours, c'est la guerre du Kippour.
Oui.
Donc c'est à nouveau une réaction des pays arabes, de l'OPEP, au conflit autour d'Israël. Et simplement, en 73, par rapport à 67 ou 67, les pays producteurs arabes de l'OPEP ont essayé de mettre en place un embargo et ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait trop de pétrole. En 73, ça marche, parce qu'il s'est passé un petit truc entre les deux. En 1970, pile au milieu, la production américaine de pétrole conventionnel, au Texas, en Oklahoma, en Louisiane, entre en déclin. Et elle va continuer inexorablement son déclin décennie après décennie. Et ce n'est pas un phénomène économique, ce n'est pas un phénomène industriel, c'est un phénomène écologique.
Géologique même.
C'est un tarissement.
Ouais, ouais.
quelle que soit la qualité de l'ingénierie, les capitaux qui vont être mis, réinjectés au Texas en particulier, le développement des premiers pétroles offshore, rien n'enrayera ce déclin. Et pour moi, c'est une leçon majeure pour l'écologie politique, c'est qu'on sait très bien que 73 est un moment absolument fatidique dans l'histoire économique, mais quand on comprend qu'en fait 73 est une conséquence directe de 1970, c'est-à-dire du déclin de ce phénomène écologique, du début du déclin de la production américaine de pétrole, là, moi, avec mon regard écologique, j'ai envie de prendre 4 pas de recul et de me dire, en fait, on n'a pas compris grand-chose au film lorsque on pense que les forces de l'esprit sont capables de dominer la nature. C'est faux. Et c'est tellement faux que les Américains, il est très vraisemblable, c'est quelque chose que je démontre et que j'ai continué à consolider après l'écriture de mon histoire du pétrole. Il est très vraisemblable que le choc de 73 ait été vu d'un très bon œil par Washington et par les Sept Sœurs, qui avaient besoin d'un baril plus cher pour commencer à développer des pétroles qu'on connaissait mais qui étaient beaucoup plus complexes à les développer, à commencer par la mer du Nord, qui est la première source de pétrole complexe qu'on va chercher dans la mer la plus tempétueuse du monde, et l'Alaska, qui est à nouveau une zone industrielle, donc tout au nord du continent américain, une zone très très difficile d'accès. Et donc
ça devient rentable d'aller chercher ce pétrole.
Oui, mais ce qui est très marquant, c'est que vous voyez le principal personnage du Département d'État, donc de la diplomatie américaine, le monsieur pétrole du Département d'État sous Nixon, qui fait le tour des capitales de l'OPEP, qui va à Alger, qui va à Bagdad, en disant clairement, nous, un prix du baril plus élevé, ça nous va. Et en fait, 73, dans la mémoire collective, c'est resté comme un coup de force. Au mieux, un coup de force des pays arabes contre Israël et ses alliés. Au pire, un caprice de potentat, prince trop gâté et qui voulait être encore plus riche. En fait, Sheikh Yamani, qui était le ministre du pétrole saoudien, va raconter des années et des années plus tard qu'en fait, c'est Kissinger qui a laissé faire et même encouragé le renchérissement fatidique du pétrole au moment de 73 en s'appuyant sur son meilleur allié dans la région qui se moque complètement du sort des Palestiniens et qui est très très proche des Israéliens, qui est le Shah d'Iran.
Alors, on fait des passerelles avec aujourd'hui, mais je m'arrête quand même pour bien comprendre. Vous me dites en fait, en 70, la production de pétrole conventionnel américain commence à baisser. Ils se disent, il faut aller chercher du pétrole ailleurs, mais ça coûte plus cher. En 73, l'occasion est donnée extraordinaire de remonter le prix du baril, qui permet d'aller chercher ce pétrole qu'on ne pouvait pas chercher quand il était trop peu cher, et qui devient compétitif, qui est le pétrole de la mer du Nord, de l'Alaska, et qui permet à l'Amérique, à nouveau, de devenir une grande puissance pétrolière. C'est
absolument,
bien ça ?
Absolument. Et de fait, le choc pétrolier de 73, on l'associe toujours avec la guerre du Kippour, c'est une erreur. En fait, il y a deux temps. Il y a octobre, donc la guerre du Kippour, et un embargo partiel, surtout mené par les Saoudiens, qui sont les meilleurs alliés des États-Unis, mais qui quand même se débrouille pour ravitailler la flotte américaine qui est en pleine action au Vietnam. Mais le vrai choc, c'est ce que la presse américaine va appeler le massacre de la veille de Noël. Donc c'est le 23 décembre à Téhéran, le Shah d'Iran, qui se moque complètement, qui n'est pas arabe, qui se moque complètement, qui est même beaucoup plus proche d'Israël que de qui que ce soit dans la région, et qui lui va donner une conférence de presse où, dans laquelle il explique qu'on a besoin d'un pétrole cher, non pas pour punir Israël, on a besoin d'un pétrole cher pour aller chercher de nouvelles formes de pétrole. Et en janvier 1974, commence l'exploitation de la mer du Nord, tous les plans sont prêts, et vous avez, en fait, dans les années qui précèdent, tout un tas de déclarations de Nixon, d'un certain nombre de patrons pétroliers, qui disent, avant 1973, on a un besoin vital d'avoir un prix du baril plus élevé. Alors évidemment, c'est des déclarations qui sont cantonnées à la presse économique, elles passent relativement inaperçues. Et puis le choc de 73 va tellement emporter tout ça qu'on a oublié.
Mais ce qui est important dans ce que vous dites, vous n'êtes pas complotiste, vous ne dites pas « les Américains ont poussé le PEP à le faire », vous dites juste « les Américains désiraient cela, l'occasion a été donnée par l'action de l'OPEP, et ils ont laissé faire. Ils auraient pu pousser l'Iran, pousser l'Arabie Saoudite. »
Ce que disait le Shah d'Iran, ce que disait Mohamed Reza Shah, c'est clairement que Kissinger, donc le patron de la diplomatie américaine, l'avait encouragé à remettre 10 balles dans le flipper, en quelque sorte. C'est en tout cas ce qu'il a raconté, et ce que l'ancien ministre du pétrole a dit dans plusieurs interviews.
Passionnant, à creuser et à prolonger, parce qu'en 1979 aura lieu le deuxième choc pétrolier. l'Iran à nouveau au cœur de l'affaire, mais alors là, ça va peut-être plutôt embêter les États-Unis. On en parlera lors du prochain épisode. Pétrole, anatomie d'une malédiction, est un podcast original de France Inter.